N'est-il pas compréhensible que les démons puissent réagir lorsque la puissance glorieuse du Saint-Esprit agit, alors qu'ils ne se manifesteraient pas autrement ? 5. Le démon jetait souvent le garçon dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Tel est leur but, faire périr les gens avant qu'ils puissent se repentir. 6. Lorsque le Seigneur commanda au démon de sortir, il ne sortit pas aussitôt. Il sortit après avoir poussé des cris et agité violemment le garçon. 7. L'enfant devint comme mort après sa délivrance. La réaction des gens immédiatement après leur délivrance est variable. Je me rappelle encore le cas de ce jeune homme que nous avons délivré d'un démon de folie dans l'ouest de l'Ouganda. Avant la prière, il était très agité et faisait beaucoup de bruit. Nous lui imposâmes les mains et priâmes pour lui en ordonnant au démon de s'en aller. Après quelque temps, nous retirâmes nos mains et le jeune homme s'écroula. Il avait l'air d'un cadavre et resta dans cet état pendant près d'une heure. Sa maman avait l'air très inquiète. Elle se dirigea vers moi et me demanda ce qui se passait. J'avais la paix dans mon cœur et je lui ai dit que tout allait bien. Plus tard, il se réveilla, demanda à manger et retrouva sa forme. Le lendemain, il retourna à l'école normale d'instituteur où il étudiait. Après leur délivrance, certaines personnes ont soif et demandent quelque chose à boire. D'autres demandent à manger. D'autres sont très fatigués. D'autres s'endorment immédiatement. D'autres éclatent en louanges et en actions de grâce. Une chose est certaine, lorsque la délivrance est terminée, il se produit toujours une manifestation visible. 8. Jésus demanda au démon de ne plus jamais revenir dans cet enfant. Cela était nécessaire pour que ce garçon garde sa délivrance. Je recommande à tous ceux qui prient pour la délivrance de commander aux démons qui ont été chassés de ne plus jamais retourner dans la personne. Je ne savais pas cela avant et je me suis aperçu que quelques personnes qui avaient été délivrées avaient de nouveau des démons en elles. Je pensais alors que nous nous étions trompés lors de la première délivrance. Maintenant, je sais que les démons peuvent revenir et à chaque fois je leur commande de ne plus jamais revenir. Le Seigneur Jésus et les maladies d'origine démoniaque. Par maladie démoniaque, nous entendons des maladies uniquement causées par la présence de démons. Voici à présent quelques cas où Jésus a guéri de telles maladies en chassant les démons qui les provoquaient. 1. Le démon de l'épilepsie. La Bible dit lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement, il tombe dans le feu et souvent dans l'eau. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Matthieu 17-14-18. 2. Le démon sourd et muet. La Bible dit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince les dents et devient tout raide, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Marc 9, 17-29. Ce démon renversait le garçon dans le feu et dans l'eau comme le précédent, mais le premier était un esprit d'épilepsie lunatique, alors que celui-ci était un esprit muet et sourd. Il est dangereux de nommer superficiellement un démon parce qu'il se manifeste de la même façon qu'un autre démon qu'on vient de chasser. On doit aborder chaque situation avec un esprit ouvert et dépendre du Seigneur pour recevoir la révélation. Après le départ de l'esprit muet et sourd, ce garçon fut guéri aussitôt. 3. Le démon muet. La Bible dit comme il s'en allait, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla Matthieu 9, 32-33. 4. Le démon aveugle et muet. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait Matthieu 12, 22. 5. L'esprit d'infirmité. Jésus enseignait dans une des synagogues, le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler, venez vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire ?» Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Luc 13, 1017. J'ai la conviction que parmi les gens qui ne peuvent pas se redresser, certains sont liés par des démons. Dans cette délivrance, Jésus adressa d'abord des paroles de réconfort à cette femme, puis lui imposa les mains, et elle se redressa immédiatement. Il est évident que le démon d'infirmité partit lorsque le Seigneur imposa les mains à la femme. Elle était liée depuis 18 ans. Je me demande combien de médecins elle avait consultés. Si le Seigneur ne l'avait pas délivrée, elle serait probablement morte dans cette condition. Nous pouvons tirer un certain nombre de conclusions à partir du ministère du Seigneur envers les gens atteints de maladies démoniaques. 1. Il existe des maladies d'origine organique. De telles maladies cèdent devant un traitement médical ou devant la guérison au nom de Jésus. Il existe d'autres maladies qui résultent de la présence de démons. Pour de telles maladies, le traitement médical ne servira à rien. La guérison par la foi n'accomplira rien. Il n'existe qu'une seule solution, la délivrance au nom de Jésus, qui conduit à une guérison instantanée. Les maladies organiques ne sont pas guéries par la délivrance. 2. Le Seigneur Jésus ne confondait pas la guérison et la délivrance. Il distinguait clairement les deux et traitait chaque cas selon le besoin. La Bible dit qu'il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, il chassa aussi beaucoup de démons. Marc 1, 34. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par ses paroles et il guérit tous les malades. Matthieu 8:16. Comment peut-on distinguer une maladie d'origine organique de celle qui est une manifestation démoniaque? La réponse se trouve dans le don de discernement des esprits. Les chrétiens qui exercent un ministère de délivrance doivent aspirer à ce don, le saisir et le recevoir de Dieu. Ceux qui ont déjà marché assez longtemps dans une communion intime avec le Seigneur, qui connaissent et qui obéissent à ses paroles, ont aussi une certaine capacité de discernement. Si l'on se trouve devant une maladie qui ne cède pas au traitement médical, à l'imposition des mains au nom de Jésus pour la guérison, à l'onction d'huile et à la prière de la foi des anciens et de l'assemblée locale, son origine est très probablement démoniaque et la personne doit être délivrée. 3. Enfin, il est possible que la guérison et la délivrance se produisent en même temps. La Bible dit du Seigneur Jésus, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui emmenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaça et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Luc 4, 40-41. Nous ne remarquons ici aucun ministère spécifique de délivrance. Il semble que, pendant que les malades étaient guéris, la présence du Seigneur forçait les démons à s'enfuir en criant. Ma prière et mon désir, pour tous ceux qui exercent la délivrance, est que nous puissions marcher avec le Seigneur dans une intimité et dans une pureté telle que sa puissance soit continuellement sur nous. Il en résulte que certains démons quitteront les gens dans lesquels ils demeurent, simplement parce qu'ils sentiront notre présence. Chapitre 4. Le ministère des chrétiens à l'égard de ceux qui sont attaqués par les démons. Comment un démon entre-t-il dans un être humain? Avant d'aborder le ministère de délivrance exercé par les chrétiens, examinons tout d'abord comment les démons entrent dans les êtres humains. Nous savons que le diable est à l'œuvre, parcourant la terre de haut en bas et de gauche à droite. Job 1, 7. Nous savons aussi que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, 8. De même, il faut s'attendre à ce qu'à l'exemple de leur maître, les démons parcourent la terre de haut en bas et de droite à gauche, cherchant qui ils dévoreront. Cela signifie que toute personne, ou tout domaine qui n'est pas protégé leur est ouvert. S'ils ne trouvent pas d'ouverture, ils resteront à l'extérieur et attaqueront de l'extérieur. S'ils trouvent une ouverture, ils entreront dans la personne et essayeront de la détruire de l'intérieur. ils utiliseront la plus petite occasion qui peut leur être offerte. Ces occasions peuvent provenir des choses suivantes. 1. Une vie qui est dans un état permanent de tension, de détresse, d'anxiété, de choc, d'humeur dépressive, de colère, etc. Les enfants qui vivent dans de telles conditions sont exposés aux mauvais esprits. Prenez par exemple l'esprit du complexe d'infériorité. C'est souvent le lot d'enfants illégitimes ou d'enfants provenant de foyers brisés ou d'orphelins n'ayant personne pour vraiment s'occuper d'eux. Cela peut commencer par un manque de confiance en soi qui persiste. Puis le démon de l'infériorité fait son entrée, ayant vu une ouverture. Les enfants qui vivent dans une maison où le père et la mère se querellent souvent et sont, en désaccord l'un avec l'autre, connaissent la peur et l'insécurité et sont ainsi ouverts au démon. Cette infériorité peut se manifester sous forme d'orgueil, d'une volonté forte, d'entêtement, mais il s'agit essentiellement d'un manque de confiance en soi ayant ouvert une porte au démon. Les parents qui sont constamment en train de crier et de gronder leurs enfants les maintiennent dans un état permanent de crainte et les exposent ainsi au démon. 2. Par la pratique de la magie, sous une forme ou une autre, en vivant avec les gens qui pratiquent des arts magiques ou en vivant près des lieux où ces choses se pratiquent. Par l'appartenance à des sociétés secrètes ou à des organisations semblables. Il est presque impossible de pratiquer la magie sans être habité par un ou plusieurs démons. La magie étant une activité fondamentalement satanique, elle s'empare de ceux qui la pratiquent et les livre au diable. C'est comme si la personne pratiquant la magie disait au démon « Me voici, pourquoi ne venez-vous pas habiter en moi ?» Les démons ne manquent pas de telles occasions qui leur sont offertes plus ou moins gratuitement. C'est pour cette raison que c'est une folie de croire que les démons partent tout seuls sans qu'on le leur demande dès qu'une telle personne se convertit. 3. L'idolâtrie met en contact direct avec des démons. La Bible dit « Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers, ils l'ont irrité par des abominations, ils ont sacrifié à des idoles démons qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissent point nouveaux, venus depuis peu et que vos pères n'avaient pas craint » Deutéronome 32, 16-17. Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège, ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles démons, psaume 106, 36-37. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu, or je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. 1 Corinthiens 10, 20. L'idolâtrie n'est pas seulement pratiquée par les païens. Nous savons que Babylone représente le faux christianisme où l'on a laissé les statues, les images, les saints, la Sainte Vierge Marie, etc. prendre la place du Seigneur Jésus. La Bible dit qu'elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur, et aux dieux. Apocalypse 18, 2, 4. En étant baptisé en Satan, sous une forme ou une autre. 5. En étant voué au diable en échange de la puissance, de la richesse, du succès, etc. En 1975, on m'invita à chasser un démon d'une fillette âgée d'environ 9 ans. Les parents voulaient me jouer un tour. Ils avaient attaché divers objets provenant de sorciers sur le corps de l'enfant et l'avaient revêtu d'une robe blanche, espérant que je ne saurais pas ce qu'il y avait dessous. J'imposai les mains à l'enfant et commandai au démon de partir. Le démon répondit à haute voix et dit que la fillette lui appartenait car les parents la lui avaient donnée volontairement. J'appelai les parents et leur parlai. Ils me dirent que cela faisait longtemps qu'ils amenaient leur enfant chez les sorciers et offraient des sacrifices pour son compte. C'est ainsi que le démon était entré en elle et la considérait comme sa propriété. Je demandais aux parents de se repentir avant que je délivre leur fille. La mère de l'enfant accepta de se repentir, mais le père déclara qu'il n'avait rien fait qui nécessitât une repentance. Je les abandonnai tranquillement avec leur fille, car je n'avais aucune base sur laquelle je pouvais me tenir pour délivrer l'enfant en laissant les parents de côté. Qui peut effectuer la délivrance ? 1. Le Seigneur Jésus a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Marc 16, 17-18. Point. Tout chrétien a la puissance nécessaire, par la vertu de sa position en Christ, pour effectuer la délivrance. Cependant, ce ne sont pas tous les chrétiens qui peuvent chasser les démons. C'est un combat Et la Bible dit si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. 2 Corinthiens 10, 3-6. Dans la délivrance, nous avons le pouvoir de punir les démons pour leur désobéissance au Seigneur. Les chrétiens dont l'obéissance au Seigneur est de 25% peuvent infliger 25% de punition aux démons. Ceux dont l'obéissance au Seigneur est de 50% leur infligeront 50% de punition et ceux qui obéissent à 100% peuvent leur infliger une punition à 100%. Les démons peuvent voir à travers une personne. Ils connaissent ceux qui sont obéissants et ceux qui ne le sont pas. Ils connaissent ceux dont l'obéissance est totale et ceux dont l'obéissance est partielle. Ils connaissent ceux à qui ils doivent obéir et ceux à qui ils peuvent désobéir. Ils savent que s'ils tentent de désobéir à ceux qui sont totalement obéissants, ils auront à faire face à la pleine force de la puissance de Dieu et seront détruits. Ils savent aussi qu'ils peuvent désobéir à ceux qui sont désobéissants, sans qu'il y ait pour eux des conséquences majeures. Au temps biblique, les démons parlèrent à certaines personnes en ces termes « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Actes 19, 15. Les démons demandent à ceux qui désobéissent partiellement ou totalement « Qui êtes-vous ? » Ils disent à tous cela « Si vous êtes prêts à désobéir à Dieu, nous sommes aussi prêts à vous désobéir. » Le Seigneur s'attend à ce que ceux qui marchent en son nom soient des gens dont la consécration est totale et qui ne lui désobéissent dans aucun domaine de leur vie. Il donne à de telles personnes une autorité sans pareil sur les démons. Il leur dit, comme il l'a dit aux disciples d'antan, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10, 19. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Luc 9, 1-2. Si tu vis dans le péché dans un domaine quelconque de ta vie, tu es en train de rejeter ton droit d'effectuer la délivrance. L'aptitude d'une personne à effectuer la délivrance est déterminée par la mesure de la puissance du Seigneur qui s'écoule à travers cette personne. Cette puissance est acquise par la discipline, la connaissance de la parole, une vie sainte et consacrée, les dons spirituels, la prière, la ressemblance à Christ dans le caractère, etc. Tous ces moyens par lesquels on acquiert la puissance spirituelle sont liés à l'obéissance. Ceux qui obéissent grandissent en puissance de façon constante. 2. Ceux qui ont effectué la délivrance doivent reconnaître la puissance autorité qui est exercée au nom de Jésus et apprendre à l'utiliser. Il ne s'agit pas simplement d'une connaissance théorique ou d'une connaissance biblique logo de la puissance du Seigneur Jésus. La connaissance à laquelle je pense est celle qui provient d'une révélation personnelle de l'autorité qui se trouve dans le nom du Seigneur Jésus ainsi que d'une révélation personnelle de la façon de l'utiliser. Je parle d'une connaissance réma de la puissance du Seigneur Jésus. 3. Ceux qui ont effectué la délivrance doivent connaître la victoire de Jésus sur la croix. Lorsque Jésus alla sur la croix, il y amena Satan avec toute son armée et les dépouilla de leurs armes. La Bible dit il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, 15. Le Seigneur a dépouillé les démons. Ils peuvent être chassés. Le diable est l'homme fort de la maison. Le Seigneur l'a vaincu à la croix. Satan ayant été vaincu, son armée peut être chassée. La connaissance de la victoire de Christ à la croix nous permet de tenir ferme, de commander aux démons de partir et d'insister jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. En leur commandant de partir, vous ne devez pas les supplier. Vous le leur ordonnez. Lorsque vous leur commandez de partir, ils vous examinent soigneusement pour voir s'ils peuvent trouver en vous une raison quelconque de rester. S'ils en trouvent, ils resteront, mais s'ils n'en trouvent pas, ils s'en iront. 4. Ceux qui ont effectué la délivrance doivent être des hommes de prière et de jeûne. Comme nous l'avons vu, il existe des démons qu'on ne peut chasser que par la prière et le jeûne. Comment distinguer ceux-là des autres ? Doit-on d'abord leur commander de sortir au nom de Jésus et, s'ils ne le font pas, conclure qu'ils sont de ceux qui ne sortent que par le jeûne et la prière ? Faut-il dans ce cas organiser un jeûne pour se préparer? Ce serait un piètre ministère, un ministère qui irait en tâtonnant. La meilleure chose à faire, pour ceux qui effectuent la délivrance, consiste à prendre l'habitude de jeûner et de prier régulièrement. Avec une obéissance inconditionnelle au Seigneur, cela les place dans une condition où ils seront plus qu'à la hauteur de la tâche, devant tout démon qu'ils peuvent rencontrer. Au moment où Jésus parlait à ses disciples des démons qui ne pouvaient sortir que par la prière et le jeûne, en un certain sens, les disciples ne pouvaient pas chasser cette sorte de démons. Parce qu'ils ne jeûnent pas encore, l'époux étant encore avec eux. Notre situation est différente. Le Seigneur est parti. Nous devons jeûner et prier et chasser toutes sortes de démons. 5. Ceux qui ont effectué la délivrance doivent pardonner à tous ceux qui leur ont fait du tort. La puissance pour chasser les démons est la puissance du Seigneur Jésus. Si celui qui effectue le ministère de la délivrance nourrit de mauvais sentiments, il bloquera la puissance du Seigneur pour la délivrance et elle ne coulera pas à travers lui vers les autres. Le Seigneur dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses » Matthieu 6, 14-15. Je ne pense pas que quelqu'un d'entre nous ait déjà atteint le point où il n'ait plus besoin du pardon quotidien de Dieu dans sa marche avec lui. J'ai personnellement besoin de son pardon chaque jour, à chaque heure et chaque minute. Compte tenu du fait que nous avons besoin de son pardon, nous devons pardonner aux autres, sinon nous serons séparés de lui à cause de nos offenses. Nous répétons avec insistance que pour un ministère réussi, on doit avoir une relation sans nuage avec les autres pour autant que cela dépende de ceux qui exercent le ministère de délivrance. Le manque de pardon indique que la personne est elle-même liée. Comment un prisonnier peut-il en libérer d'autres? Il doit d'abord se libérer, et ce n'est qu'alors qu'il pourra libérer les autres? Les exigences requises de la personne qui a besoin de délivrance. Dans le cas où elle a un ou plusieurs démons, mais sans être complètement possédée, une personne qui a un ou plusieurs démons doit faire ce qui suit 1. Elle doit désirer la délivrance. Une personne peut avoir un démon, mais ne pas vouloir en être délivrée. Dieu ne forcera pas la délivrance d'une telle personne. Il laissera prévaloir sa liberté. 2. Elle doit reconnaître qu'elle possède un démon. Si une personne est par exemple habitée par le démon de gloutonnerie, et cependant se dit « mon cas n'est pas si grave, je mange un peu trop de temps en temps », c'est tout. Elle ne peut pas être délivrée. Si elle prend du poids à cause de sa gloutonnerie, mais qu'elle disait bien « je suis d'une famille de gens costauds ». En réalité, je ne suis pas trop gros, ce sont mes os qui le sont, j'aurais l'air moche si je perdais du poids, je n'aurais pas assez d'argent pour m'acheter de nouveaux vêtements, etc. Elle ne sera pas délivrée, car elle ne veut pas admettre qu'elle a un démon. La plupart des gens sont trop orgueilleux pour s'humilier, admettre qu'ils ont un démon et se faire délivrer. Dieu ne peut bénir les orgueilleux, il les rabaisse. 3. Elle doit vouloir se soumettre au ministère de délivrance. Une personne peut se dire « Eh bien, je pense que j'ai un démon, mais je suis plus saint que tous ceux qui sont ici. Qui est assez spirituel pour me délivrer, moi le saint ?» Elle peut aussi se dire « Je pense que tous ceux qui sont ici ont un démon. Je ne veux pas être délivrée. » Une telle personne restera dans l'esclavage. Elle est trop orgueilleuse. Elle ressemble au prince des démons, Satan. 4. Elle doit se repentir de tous les péchés connus, les confesser et les abandonner. La Bible dit « Celui qui péchait du diable, car le diable pèche dès le commencement. » Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. 1 Jean 3, 8-10. Péché, c'est coopérer avec le diable. Quel que soit le domaine où il y a le péché, le diable dispose de bases légales pour rester. Ainsi, avant qu'une personne soit délivrée, elle doit éliminer toutes les raisons que le diable peut invoquer pour rester en elle. Elle doit se séparer radicalement de tout péché dans sa vie. 5. Elle doit mettre fin à tout contact avec le surnaturel du diable. Les démons sont probablement entrés en elle à cause de ses contacts avec des idoles, ou avec une forme quelconque de sorcellerie. Pour être délivrée, la personne doit renoncer publiquement à toutes ses pratiques et ne plus jamais retourner à aucune d'elles. Tout objet en sa possession, ayant trait au surnaturel interdit, doit être apporté pour être brûlé publiquement. Si ces choses ne sont pas ainsi éliminées, la délivrance échouera probablement car la personne n'a pas encore atteint le point où elle veut que le royaume de Satan soit complètement renversé. 6. Elle doit pardonner à tous ceux qui lui ont fait du tort. Un cœur qui ne pardonne pas, l'amertume, la haine, la malveillance, etc. sont des éléments qui soutiennent le royaume du diable. Si l'on retient ces choses dans sa vie, de toute évidence, les démons refuseront de quitter cette vie. Ils continueront à y rester et ils ont le droit de le faire. 7. Elle doit croire que la délivrance ne peut s'effectuer que grâce au nom de Jésus. Ce n'est pas grâce à la puissance du serviteur de Dieu que la délivrance est possible. Elle n'est pas non plus le résultat de beaucoup de jeûnes et de prières, aussi bonnes que ces choses puissent être. Elle n'est possible que parce que Jésus a vaincu le diable sur la croix il y a 2000 ans et lui a enlevé son autorité et sa puissance. Si nos yeux ne sont pas fixés sur Jésus, le libérateur, même le saint le plus puissant, sera incapable d'apporter la délivrance à ceux qui en ont besoin. 8. Elle doit invoquer le nom de Jésus pour être délivrée. Elle doit abandonner toute ressource humaine et désirer être délivrée immédiatement. Si elle acceptait de passer encore un jour, une semaine ou un mois sans être délivrée, alors elle n'est pas encore prête pour la délivrance. Une personne prête pour la délivrance est celle qui dit « Je suis désespérée, il me faut être délivrée ici et maintenant. Je me soumets maintenant à la délivrance et je crois que Jésus me libérera. » La délivrance proprement dite, si celui qui effectue la délivrance et celui qui doit s'y soumettre se sont préparés, ils peuvent procéder de la manière suivante. La personne qui doit recevoir la délivrance doit prier et demander au Seigneur Jésus de la délivrer. Cela n'est pas nécessaire si la personne n'est pas en état de pouvoir prier. 2. Celui qui effectue le ministère de délivrance doit prier et commander aux démons de se manifester. Parfois, à ce commandement, les démons se manifestent de la manière suivante, en hurlant, criant, s'agitant, pleurant, riant, soupirant, s'étouffant, par des convulsions, en toussant, en grognant, en provoquant un évanouissement, en provoquant des contorsions, en crachant, en vomissant, en parlant dans une langue inconnue, en prenant une position de prière, en déchirant les vêtements, en frappant les gens présents, en s'enfuyant, en se déshabillant, etc. Les manifestations sont tellement variées que nous devons être prêts à toute éventualité. Parfois, les démons se manifestent sans qu'on le leur demande. Il ne faut pas se laisser décourager par les manifestations. Parfois, il n'y a aucune manifestation visible. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait aucun démon. Il se peut qu'il tente de se cacher. Parfois, les manifestations ne se produisent que si l'on insiste. 3. Celui qui prie pour la délivrance doit commander au démon de donner son nom. Ceci a un double avantage. D'abord, cela force le démon à s'exposer. Lorsqu'un démon donne son nom, il lui est plus difficile de se cacher. Deuxièmement, en donnant son nom, c'est la preuve que la personne qui veut la délivrance est prête à reconnaître son état et à exposer le démon. Puisque les démons sont des créatures qui préfèrent l'obscurité et le mensonge, le fait de les nommer permet d'affaiblir leur autorité. Bien que les démons soient capables de mentir, le Seigneur considérait comme vraies les informations qu'il lui donnait. Je suggère qu'il faut considérer comme vraies les informations données par les démons au sujet de leur nom, de leur nombre, du temps passé dans la personne, etc., sans leur demander s'ils sont en train de mentir. Une telle question serait, de toutes les façons, inutile, car si les démons avaient menti la première fois, ils peuvent continuer à mentir. Si plusieurs personnes prient ensemble pour une délivrance, l'une d'elles doit diriger l'équipe et être celle qui parle aux démons. Il doit peser ce qui se dit, coordonner tout cela et décider comment la délivrance doit se passer. Il n'est pas sage qu'un groupe de personnes entoure le démoniaque, l'un disant une chose, l'autre une autre chose et tout le monde à la fois. Le royaume de l'ennemi est très bien organisé et les démons ne peuvent que profiter d'un tel désordre pour rester dans la personne. Certains noms donnés par les démons peuvent paraître étranges. On ne doit pas les rejeter parce qu'ils sont étranges. dans notre pays, nous avons eu l'occasion de chasser un démon qui disait s'appeler Hitler. Les démons peuvent prendre de nombreux noms et revêtir des formes variées. Les anges de l'Éternel prennent parfois la forme d'un être humain. Les démons, qui sont les anges de Satan, peuvent en faire autant. J'ai souvent entendu dire qu'il y a des gens qui ont parfois rencontré, sous une forme humaine, des personnes qui auparavant étaient mortes et avaient été enterrées. On raconte aussi que ces gens disparaissent quelquefois dès qu'on les reconnaît. Pendant plusieurs années, j'ai refusé d'y croire en général et je ne suis pas enclin à croire n'importe quoi. Cependant, je pense maintenant que les démons prennent probablement la forme d'une personne décédée et l'utilisent soit pour la discréditer, soit dans un autre but. Beaucoup de gens parlent des apparitions de la Vierge Marie. Il ne peut s'agir que de démons ayant pris sa forme et apparaissant à ceux qui ne sont pas sauvés pour les pousser à la perdition. Dans la Bible, lorsque l'homme riche qui était en enfer demanda qu'on envoie quelqu'un d'entre les morts vers ses frères, il lui fut répondu que même, si un mort retournait sur terre, ces gens-là ne croiraient pas non plus. Marie est dans la tombe. Elle ressuscitera lorsque l'Éternel reviendra. Mais, en attendant, les démons utilisent sa forme ou une forme semblable. Il n'existe pas de photographie de Marie, ainsi personne ne sait à quoi elle ressemblait. Les images ne sont destinées qu'à tromper les enfants du diable pour les pousser à adorer Marie afin qu'ils soient perdus. 4. Lorsqu'un démon a donné son nom, la personne en qui le démon réside doit renoncer à lui. Par exemple, si c'est un démon de colère, cette personne doit parler au démon en ces termes « toi ». Démon de colère, je renonce à toi au nom du Seigneur Jésus et je te commande de mettre fin maintenant à ton séjour illégal en moi. Dans de nombreux cas, une démarche aussi ordonnée est impossible. Il se peut que le démon soit très violent ou qu'il essaye d'étrangler la personne. Si tel est le cas, la délivrance doit se dérouler selon les circonstances. Il n'existe pas de formule type. 5. Celui qui prie pour la délivrance doit alors commander au démon de sortir au nom du Seigneur Jésus. Parfois les démons sortent immédiatement, mais parfois ils traînent et tourmentent la personne. À d'autres moments, ils se cachent et arrêtent de se manifester, donnant l'impression qu'ils sont sortis. Quel que soit le cas, celui qui prie pour la délivrance doit persévérer jusqu'à la délivrance totale. Après le départ d'un démon, il faut vérifier s'il y en a d'autres. Ils sortent souvent en criant et en pleurant, etc. Dans d'autres cas, ils crachent sur ceux qui sont présents, faisant toute chose pour les mettre aussi mal à l'aise que possible. D'autres fois, la personne vomit, et les vomissures ont une odeur horrible, simplement parce que les démons veulent éviter d'être chassés. Quelquefois, ils déshabillent la personne pour essayer de séduire celui qui prie pour la délivrance. Ils feront tout pour essayer de rester. Lorsqu'ils partent, il est évident qu'ils sont partis. Les manifestations s'arrêtent tout à coup et l'apparence de la personne change. Il est facile de distinguer lorsque ce sont les démons qui parlent et lorsque c'est la personne habitée par les démons qui parlent. Après quelques séances de délivrance, il est facile de distinguer les deux voix. Parfois deux esprits résidents, dans des personnes présentes, peuvent communiquer entre eux. Une fois, nous avons eu beaucoup de difficultés à délivrer certaines personnes avant de nous rendre compte que les démons communiquaient entre eux, renforçant ainsi leur empire. Nous avons coupé cette communication au nom de Jésus et la délivrance s'acheva peu de temps après. À d'autres occasions, nous avons remarqué qu'un certain nombre de démons se renforçaient mutuellement dans la même personne, rendant ainsi la délivrance difficile. Nous avons séparé les démons les uns des autres, au nom du Seigneur Jésus. Nous avons lié et chassé séparément chaque démon et la délivrance fut ainsi réalisée. Chasser un démon peut s'avérer très fatigant, aussi bien pour la personne qui a le démon que pour celle qui le chasse. Une pause est donc parfois nécessaire. On ne doit pas considérer cela comme une marque de faiblesse. L'important est de reprendre la délivrance et la terminer. Aucun serviteur de Dieu ne doit se laisser prendre par ses occupations au point de ne plus avoir le temps de terminer une délivrance qu'il a commencée. Beaucoup de gens sont fondamentalement désordonnés. Ils sont prompts à s'engager dans des projets, mais ne les exécutent pas jusqu'au bout. Toute personne qui entame une délivrance et ne la termine pas déshonore Dieu. Si elle persévère dans son indiscipline, il se peut que le Seigneur finisse par lui retirer la puissance d'exercer le ministère de délivrance. 6. Lorsque la délivrance est terminée, on doit commander au démon de ne plus jamais retourner dans cette personne. 7. Après la délivrance, il faut conduire cette personne à recevoir le salut en Jésus. Peut-être ne pouvait-elle pas vraiment croire auparavant. Maintenant, elle est certainement dans une meilleure condition. On doit donc l'aider à venir au Seigneur pour être sauvée. Lorsqu'elle a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut la baptiser immédiatement et la conduire de nouveau à Jésus pour être baptisée dans le Saint-Esprit. Ceci lui assurera un départ normal dans la vie chrétienne. 8. On doit enseigner à cette personne d'en finir de façon radicale avec le passé. Ceci est l'objet du chapitre suivant. Nous avons constaté que la raison pour laquelle de nombreux chrétiens sont opprimés, trompés et même habités par un ou plusieurs démons est due au fait qu'ils n'avaient pas rompu de manière radicale avec leur passé. Nous encourageons tous ceux qui ont été délivrés et tous ceux qui ont commencé une vie nouvelle en Christ à lire attentivement le chapitre suivant et à le mettre en pratique. 9. Enfin, il serait bon de terminer la délivrance en louant celui qui délivre, le Seigneur Jésus-Christ. Ce ministère de louange comprend des prières de louange et d'action de grâce, des cantiques de louange et d'action de grâce, des témoignages de louange et d'action de grâce. Je recommande que la délivrance soit effectuée de façon régulière et normale, comme faisant partie du ministère de l'Église locale, au même titre que les autres ministères, tels que le baptême dans le Saint-Esprit, l'évangélisation, l'enseignement, la guérison, etc. Je suggère aussi qu'on effectue la délivrance en équipe. Dans un certain cas, où j'avais entrepris tout seul une délivrance, j'ai passé des moments tellement difficiles avec le démoniaque, qui était violent et furieux, qu'au moment où la délivrance s'est terminée, après 2 heures de combat, le jeune homme s'est écroulé de fatigue et j'étais moi-même sur le point de m'évanouir. Je suis restée en fait tendue à terre pendant 2 heures. Une délivrance en équipe est également conseillée lorsque le démon veut tuer la personne qui est en train d'être délivrée en l'étranglant ou en utilisant tout autre moyen. La Bible dit de valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de second pour le relever. Ecclésiaste 4, 9-10. Quoi qu'il en soit, l'équipe devra être bien organisée. Chacun des membres doit connaître sa position devant le Seigneur, devant les démons et devant les autres membres de l'équipe. Chapitre 5. Comment garder sa délivrance et en finir avec le passé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 1 Corinthiens 5, 17. Quand quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur, le Seigneur lui pardonne tous ses péchés et efface tous ceux qu'il accusait dans les registres célestes. Cependant, pour qu'il grandisse normalement dans sa nouvelle vie, il lui faut délibérément coopérer avec Dieu en mettant fin à sa vie passée. En finir avec tout contact avec le monde surnaturel de Satan. Le monde surnaturel comprend 2 dimensions, le surnaturel de Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et le surnaturel du diable, de ses principautés et de ses puissances. Tout contact avec Dieu doit être encouragé, mais tout rapport surnaturel avec le diable est à bannir. Jeune converti, avant de recevoir le Seigneur, tu as peut-être eu des contacts avec les pratiques surnaturelles suivantes qui sont interdites par Dieu. 1. La pratique de la magie. 2. Des contacts quelconques avec des sorciers. 3. Des contacts avec les morts et le culte des ancêtres. 4. Des tentatives de prédire l'avenir par l'astrologie, par exemple les horoscopes, la chiromancie, les médiums, les diseurs de bonne aventure, etc. 5. Tout contact avec des sociétés secrètes mystiques d'origine locale, telles que la société Ogbori, le Famla, le Nyamkwa, l'Oba Saint-Jou, le Gondo. 6. Tout contact avec des sociétés mystiques d'origine étrangère, comme l'ordre rosicrucien à mort, les francs-maçons, le yoga, la méditation transcendantale, les loges. 7. Les talismans, amulettes, et tout ce qui est utilisé pour la protection personnelle. 8. Les charmes et tout ce qui est utilisé pour influencer les autres, les remèdes charmes qui sont utilisés pour séduire les autres et conserver leur amour. 9. les comprimés spéciaux et tout ce qui est utilisé pour avoir de l'intelligence et pour réussir aux examens. 10. L'utilisation de puissance magique pour gagner des matchs de football et d'autres compétitions. Tu dois rompre immédiatement avec toutes ces choses. La vie de Dieu en toi, à travers le Seigneur Jésus, s'oppose entièrement à ces activités surnaturelles du diable. À présent que tu es un enfant de Dieu, tu ne peux plus continuer à pratiquer ces choses. Auparavant, quand tu étais encore un enfant du diable, tu pouvais t'adonner à ces pratiques du diable, qui était alors ton père. Maintenant, tu as changé de parenté et de royaume. Tu dois abandonner tout ce qui appartient au royaume que tu viens de quitter. Dieu est contre ces pratiques. Il dit « Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel, Lévitique 19, 26-28. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Deutéronome 18, 10-12. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les cherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 19, 31. Dieu punit tous ceux qui traitent avec de telles choses. Sa parole dit « Tu ne laisseras point vivre la magicienne. » Exode 22, 18. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Lévitique 20, 6. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. Lévitique 20, 27.